Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Chrétienté, dirigé aujourd'hui par Guillaume de Thieulois, diffusé en direct jeudi 21 août 2014 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé vendredi 22 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce libre journal est réalisé par Benoît. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82, par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr.
Eh bien, bonsoir amis et auditeurs, merci d'être fidèles à Radio Courtoisie. Je suis très heureux de vous retrouver en fin d'été pour ce libre journal de Chrétienté. Pour notre première partie, nous avons deux sujets principaux. Et en dernière partie de cette première partie, nous aurons un sujet d'actualité dont je vous réserve la surprise pour le moment où ça arrivera. Mais pour l'instant, nous avons dans le studio trois intervenants. Pour deux sujets, Philippe Maxence, rédacteur en chef de L'Homme Nouveau, qui vient nous parler de son Chesterton face à l'islam. Bonsoir Philippe Maxence.
Bonsoir Guillaume de Thieulois, bonsoir aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Et Jean-Pierre Maugendre, qui est le président de Renaissance Catholique et qui vient nous parler de, du livre que Renaissance Catholique vient d'éditer, de Monseigneur Schneider, Corpus Christi. Bonsoir Jean-Pierre.
Tout à fait, bonsoir.
Et nous avons un grand témoin qui est l'abbé Guy Pagès, que la plupart de nos auditeurs connaissent également, j'imagine. Bonsoir monsieur l'abbé.
Bonsoir Guillaume. Bonsoir.
Qui reste avec nous pendant toute l'émission, donc les deux parties, et qui en deuxième partie parlera de la deuxième édition de son très bon ouvrage « Interroger l'islam ». Mais donc comme nous allons entre autres parler d'islam dans cette première partie, j'ai pensé qu'il était utile que l'abbé Pagès soit parmi nous. Merci. Pour donc parler du livre de Philippe Maxence, c'est un tout petit livre, Chesterton face à l'islam, qui vient de paraître chez Via Romana, donc la maison d'édition de notre ami Benoît Mancheron. Philippe Maxence, expliquez-nous un peu la genèse de ce livre.
La genèse de ce livre, oui, c'est une question intéressante, effectivement.
On s'attend pas spécialement à Chesterton non, mais effectivement, sur l'islam.
Depuis plusieurs années, j'ai observé que un certain nombre de personnalités se sont intéressées à Chesterton et l'islam à partir d'un de ses romans qui s'appelle L'Auberge volante, qui a connu deux éditions françaises, une avant-guerre et une après-guerre publiée aux éditions de L'Âge d'Homme, traduit par Pierre Boutan. Et ce roman a beaucoup intéressé un certain nombre de personnalités, dont Alain Lanavert, bien connu des auditeurs de Radio Courtoisie, parce que c'est une sorte de roman prophétique sur, j'allais dire, sur l'invasion de l'islam en Occident, à travers donc une histoire romanesque menée par Chesterton. Et je me suis rendu compte à ce moment-là qu'on se focalisait beaucoup sur ce roman qui est effectivement très intéressant par son aspect en quelque sorte prophétique, mais que bien au-delà de ça, Chesterton avait déjà parlé de l'islam dans une grande partie de son œuvre, bien avant d'avoir écrit ce roman, et également après dans d'autres livres après l'avoir fait publier dans les années 20. Donc je me suis mis à la recherche de toute en quelque sorte d'un grand nombre d'occurrences sur l'islam dans l'œuvre de Chesterton. Il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, je n'ai pas tout recensé, et je me suis aperçu à ce moment-là que décidément Chesterton posait un regard d'une très forte acuité qui tenait principalement à un regard théologique qu'il avait sur ce sujet, qui n'est pas simplement donc un sujet politique, même si ça a évidemment des conséquences politiques dès son époque, mais que son analyse théologique lui permettait de bien saisir ce qu'est l'islam, ce qui est pas, enfin, me semble-t-il, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, je pense être un spécialiste de Chesterton et avoir quelques raisons d'en parler, mais je ne suis pas du tout un spécialiste de l'islam. Mais d'après ce que j'ai pu lire sur le sujet, Chesterton me semble avoir bien saisi le cœur même de cette religion.
Alors, on va y venir sur ce regard théologique, mais avant ça, vous dites que c'est un regard prophétique sur l'arrivée l'arrivée de l'islam en Europe, prophétique, parce que Chesterton écrit à un moment où le problème ne se pose pas encore pour l'Europe.
Tout à fait, il écrit ce... Donc, principalement, je parle de l'auberge volante, là, il l'écrit juste avant la Première Guerre mondiale, à une période où l'Angleterre est en... Enfin, qu'une partie de du bassin méditerranéen est assez bouleversée par la politique de la Turquie. L'Angleterre intervient. Donc le sujet est à ce moment-là est très politique au sens de... C'est une politique d'ordre international et d'équilibre entre les puissances. Et Chesterton se met à travailler le sujet à ce moment-là. Enfin, le thème de son roman. Très vite, la Première Guerre mondiale balaie toute cette problématique dans l'esprit des Britanniques et du reste du monde. Et Chesterton publie son livre ensuite après la guerre et annonce là dans cette auberge volante, tout simplement, c'est une sorte de camp d'essaim de Chesterton, c'est-à-dire c'est l'invasion de l'Angleterre à la fois par des troupes islamiques qui pénètrent en Angleterre, c'est ça qui est vraiment intéressant, qui est généralement pas assez vu à mon sens, grâce à la collaboration des élites entre guillemets britanniques, à savoir la haute aristocratie anglaise qui pour paraître libérale, pour paraître ouverte sur un certain nombre de modes, à savoir l'hygiénisme que dénonce Chesterton, c'est-à-dire qu'il ne faut pas boire de vin, il faut, enfin voilà, un certain nombre de choses comme ça, ne pas fumer, etc. L'islam, à ce moment-là, a le vent en poupe dans l'histoire du roman, et sous ce prétexte-là, ben, en fait, toute une armée débarque en Angleterre et tente de prendre l'île sous sa coupe. Et comme toujours dans les romans de Chesterton, ça se finit bien.
Espérons que dans la vraie vie, ça se finira bien aussi.
Pour l'instant, c'est plus difficile, disons.
Je ne connais pas du tout ce roman. Je ne le connais que par la recension, en quelque sorte, que vous en avez faite dans ce petit ouvrage. Mais ce que j'ai trouvé très, très prophétique, comme vous dites, c'est justement la collaboration des élites avec l'islam. Et il me semble qu'il y a un intérêt évident des élites, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour l'islam, parce que l'islam donne des esclaves. En fait, c'est très pratique comme religion. C'est plus facile à gouverner que des chrétiens.
Ben, c'est la religion de la soumission, puisque c'est là où on revient d'ailleurs à l'aspect théologique. C'est que Chesterton remarque que l'islam se focalisant, c'est pas le terme encore une fois, mais insistant de manière très forte sur un Dieu unique qui n'est pas la Trinité, dans lequel il y a une relation d'amour, ne peut rentrer que dans une logique de soumission qui se répercute, qui n'est pas juste au plan théologique, mais qui se répercute aussi dans la vie et dans la vie humaine. C'est le cas pour les femmes, c'est le cas pour les chrétiens, c'est le cas pour tous ceux qui tombent sur leur coupe.
Sous la coupe de l'islam.
C'est soit la soumission, soit la mort. On le voit très particulièrement et malheureusement aujourd'hui. Et donc de ce fait, c'est vrai que ça offre à des élites, des élites entre guillemets, qui, en tout cas, ceux qui ont le pouvoir, et à savoir en Grande-Bretagne à ce moment-là, le pouvoir politico-financier, qui ne sert pas le bien commun, mais servent des intérêts très particuliers, de s'appuyer sur une masse d'hommes qui leur seront effectivement soumis. Et c'est tout l'intérêt pour, comme vous le signalez, pour ces élites libérales au sens du capitalisme libéral, que dénonce Chesterton de manière très forte, c'est tout l'intérêt pour elle.
Et on le voit, si on peut faire le rapprochement avec l'actualité brûlante, on le voit en particulier dans la soumission à la finance, ce qu'on appelle la finance islamique. Il est quand même assez ahurissant en France d'assister à cette soumission. En tout cas, nous avons déjà une logique de dhimmi vis-à-vis d'un certain nombre de méthodes de financement islamique. Nous payons la taxe du halal. On y reviendra avec la Bépagès tout à l'heure, mais nous payons la taxe du halal puisque nous n'avons pas le droit de savoir si la nourriture que nous mangeons est halal ou pas.
Taxe religieuse,
En achetant de la viande halal, et donc maintenant, il y a quand même une certaine chance que beaucoup de viande qu'on consomme soit halal.
Enfin, quand vous dites chance, je vous laisse la responsabilité de ce propos, mais...
Donc, quand on consomme de la viande halal, on finance l'islam, et l'expansion de l'islam en particulier en Europe. Mais on le voit aussi dans l'asservissement de l'État français à la finance, notamment qatari. C'est très impressionnant. Mais si vous voulez...
C'est le moins qu'on puisse dire pour ce qui est très impressionnant, effectivement. Nous sommes sous la... Enfin, la France, visiblement, est sous la coupe totale de, enfin, du Qatar au plan financier. Je crois que les fonctionnaires, le salaire des fonctionnaires est payé par... enfin, tient au moins en grande partie au financement du Qatar.
Jean-Pierre. Alors, en écoutant Philippe Maxence, ça me fait penser à un épisode. Les auditeurs vont peut-être être surpris parce que je regarde de temps en temps la série Downton Abbey. Donc, vous voyez ce que c'est. C'est une immense propriété en Grande-Bretagne, un château superbe qui se transmet de génération en génération. Et puis, dans un des épisodes que j'ai vu récemment, la famille est perturbée par le fait, donc il y a un comte, il y a ses trois filles, et une des trois filles est tombée amoureuse du chauffeur, ce qui est déjà pas terrible. Et en plus, le chauffeur est un révolutionnaire irlandais. Bon. Donc, ça crée une pagaille dans la famille. Et puis, la mère du comte, la comtesse Douairière, à un moment donné, intervient, pour, donc une dame très distinguée, très vieille Angleterre, et elle dit à son fils, vous savez, mon fils, si nous avons pu garder nos avantages matériels, effectivement, la propriété est superbe, extraordinaire, etc., c'est parce que nous avons toujours su composer avec les forces montantes. C'est-à-dire que votre chauffeur révolutionnaire irlandais, etc., trouvez un accord avec lui, c'est lui la force montante. L'important, c'est qu'on arrive à conserver la propriété. Et voilà, ça m'a fait penser à ça, ce qu'évoquait Philippe Maxence à l'instant.
À la seule différence que le chauffeur irlandais est catholique, ce qui est un grand péché dans la série, et ce qui d'ailleurs reflète bien l'ambiance de l'Angleterre de cette époque, et qu'aujourd'hui, c'est aussi un saut culturel immense. Quoi. Enfin, on passe à autre chose.
Tout à fait. Oui, monsieur Labbé.
Je veux dire que pour la finance islamique et finalement les tenants du pouvoir, l'islam n'offre pas simplement l'intérêt d'un peuple de soumis, mais aussi du fait que Allah est inconnaissable, c'est l'acceptation de l'arbitraire. Parce qu'il n'y a pas, avec Allah, à comprendre ce qu'il dit. Donc, avec ça, c'est très commode pour vraiment faire ce qu'on veut. Quoi.
Ouais, justement, on va peut-être passer tout de suite à la question théologique, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans la vision de Chesterton par rapport à des visions plus courantes chez nous aujourd'hui, ce qui est intéressant dans la vision de Chesterton, c'est une vision chrétienne de l'islam et une vision... de quelqu'un qui vient d'une hérésie chrétienne, enfin au moins pour nous catholiques, qui vient d'une hérésie chrétienne très proche de l'islam. Je rappelle, juste avant de revenir là-dessus, que nous sommes sur Radio Courtoisie et que vous pouvez intervenir, j'ai oublié de le dire au commencement, que vous pouvez intervenir par téléphone au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou par télécopie au 01 46 51 21 82, 01 46 51 21 82 ou encore par courriel courtoisie@radiocourtoisie.fr. Mais donc je reviens à cette question de la vision théologique de Chesterton sur l'islam. Philippe Maxence, vous nous disiez juste avant de commencer cette émission que Chesterton était très bien placé pour comprendre l'islam parce qu'il venait d'une famille unitarienne. Alors expliquez-nous un peu ce que c'est que l'unitarisme.
Bah, l'unitarisme, c'est juste une... Enfin, c'est juste. C'est une des hérésies, d'ailleurs une très très vieille hérésie chrétienne qui a eu plusieurs courants et plusieurs, si je puis dire, plusieurs incarnations, même si le terme n'est peut-être pas le mieux choisi en l'occurrence, qui veut que le Dieu soit unique et qui méconnaît la Trinité et très particulièrement qui refuse de reconnaître en Jésus-Christ
la deuxième personne
de la Sainte Trinité.
Donc c'est l'hérésie d'Arius.
C'est notamment ça, mais il y a eu vraiment énormément d'unitarisme en fait depuis très longtemps et plusieurs textes anciens que je cite mais que je suis incapable de vous citer de mémoire mémoire, mais que je cite dans le livre, il y a un texte ancien qui dénonce justement l'islam, peut-être que l'abbé Pagès pourra m'aider sur ce sujet, comme une hérésie chrétienne, en gros une hérésie chrétienne unitarienne.
C'est ce que disait Saint Jean Damascène.
Voilà, c'est Saint Jean Damascène. Merci Guillaume. C'est pas l'abbé Pagès qui m'a aidé, c'est Guillaume. Merci Guillaume.
Je confirme.
Voilà. Mais monsieur l'abbé, en tant que grand témoin, vous pouvez confirmer, c'est bien.
Monsieur l'abbé, vous voulez peut-être parler justement de l'unitarisme, parce que c'est un des sujets de votre ouvrage, on peut peut-être en parler tout de suite.
C'est vrai que le christianisme, prenant sa racine dans le judaïsme, qui trouve son originalité dans l'affirmation du monothéisme, cette dimension de la révélation était importante pour la spécificité du christianisme à son départ, parmi toutes les religions environnantes. Et puis, il y a, comme maintenant et toujours, beaucoup d'intérêt à promouvoir un dogme qui promeut l'unitarisme, parce que ça se conjugue très bien avec le totalitarisme.
Oui,
ça simplifie la pensée, on va tout résoudre, tout ramener à l'unité, donc apparemment c'est la solution idéale par rapport au problème.
C'est une grande tentation humaine de tout résoudre, de tout ramener à une seule cause explicative.
Et donc, Chesterton, lui, a vécu dans une famille unitarienne.
Il est né dans une famille unitarienne et a fréquenté plusieurs lieux de culte unitariens dans Londres quand il était très jeune. Donc, il a été marqué par cette vision d'origine. À partir de 12 ans, il a subi une crise spirituelle importante qui, au fur et à mesure de son adolescence, l'ont conduit à perdre la foi et à quitter le christianisme. Et ensuite, il est revenu au christianisme d'abord par le biais de l'anglo-catholicisme, donc une des branches de l'anglicanisme. Et puis petit à petit, par ses recherches et par ses combats, par ses polémiques religieuses, il en est venu à affirmer en quelque sorte tout l'enseignement catholique sans être formellement catholique. Puisque à partir de, en gros, entre 1905 et 1908, il fait ce cheminement intellectuel qui conduit aux conclusions catholiques, et il rentre définitivement dans l'Église catholique en 1922. Donc il y a quand même une grande étendue. Mais pour revenir au sujet qui nous intéresse, à savoir l'islam, je pense que au regard donc de cette histoire personnelle de Chesterton, des comparaisons qu'il ne cesse de faire dans son œuvre entre l'unitarisme et les unitariens et l'islam, on peut voir là l'origine de son regard un peu perçant sur le sujet, pour ne pas dire prophétique.
D'accord. Et est-ce qu'il est déjà dans une logique, comme disait l'abbé Pagès, de dire l'unitarisme, ou le monothéisme strict de l'islam conduit nécessairement au totalitarisme, ou il le dit pas?
Je ne connais pas dans son œuvre l'emploi, l'utilisation du mot totalitarisme. Il faut savoir que Chesterton est quand même mort en 1936. Mmh. Alors le totalitarisme existe d'une manière ou d'une autre, mais il parle plus d'arbitraire, ça c'est très clair, de soumission, de il y a tout un développement sur la liberté, mais pas directement avec l'emploi du mot totalitarisme. Mais il voit bien que l'islam va prendre toute la vie humaine, toute la société humaine sous sa coupe et l'organiser sans ces possibilités de respiration que permet un équilibre entre la sphère spirituelle et la sphère et la sphère politique.
D'accord. Juste, j'ai une question qui est strictement personnelle, mais qui a un petit rapport avec l'islam, donc je vais peut-être y répondre tout de suite. Donc, une auditrice nous dit: Monsieur de Thulois parle très bien, je ne comprends pas qu'il ait reçu à une de ses émissions cette taupe islamiste de Farida Belghoul. J'avais reçu Farida Belghoul pour, d'ailleurs l'abbé Pagès était présent, justement pour essayer de comprendre la nature de son combat, et dans l'ordre du débat et pas spécialement dans l'ordre de l'adhésion à quelque islamisme que ce soit. Je crains ou je confesse que je reste catholique indécrodablement catholique. Donc...
Mais c'est important ce que vous... Pardon, monsieur Abbé, mais c'est important ce que vous dites, Guillaume, parce qu'effectivement, même de manière moins sérieuse, c'est pas parce que vous me recevez sur Chesterton que vous êtes un adhérent et un lecteur de Chesterton. Voilà. Je crois qu'il faut apprendre à savoir qu'il...
Être un peu libre.
Et puis qu'on est là pour discuter.
Je trouve ça déplorable, ce message que vous venez de lire, Guillaume, parce que nous qui nous voulons chrétiens, nous avons le devoir d'aimer nos ennemis. Et comment prétendre aimer nos ennemis si on ne leur rend pas justice? La base, le minimum que l'amour demande, c'est la justice. Et donc reconnaître chez quelqu'un, fût-il notre ennemi par ailleurs, ce qu'il fait de bien ou de juste, ça me paraît être le commencement pour lui montrer qu'ils sont dans la vérité.
C'était juste une petite parenthèse personnelle, mais revenons à Chesterton, qui est évidemment plus intéressant que des vieilles questions de libres journaux de chrétienté anciens. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans l'islam et ce genre de préoccupation résonne beaucoup avec votre petit livre, c'est le fait que tout soit tellement concentré sur l'unité. Évidemment, que Dieu soit un, je partage cette affirmation, mais...
Je crois que nous la partageons tous ici.
Mais c'est essentiellement une affirmation antitrinitaire, en fait. C'est pas tellement...
Oui, tout à fait, c'est essentiellement antitrinitaire.
Ce qui m'a toujours frappé dans la Shahada, hein, la profession de foi islamique, c'est qu'elle commence par non. Ouais. Ce qui est quand même très paradoxal comme façon de commencer une profession de foi. Hein. Ouais. Nous, quand on dit « je crois en un seul Dieu », on commence par affirmer, on commence pas par nier. Ouais. Eux, ils disent « non ». Il n'y a qu'un seul Dieu.
Voilà.
Et donc, non, il n'y a qu'un seul Dieu, c'est non contre les chrétiens, évidemment. Et donc l'islam est essentiellement un anti-trinitarisme forcené. Et ce qui me frappe beaucoup dans cette vision, c'est qu'elle est très compatible avec tout le totalitarisme post-révolutionnaire, révolutionnaire et post-révolutionnaire, qui refuse absolument toute distinction entre le spirituel et le temporel, qui imagine l'humanité divisée en une race de maîtres et une race d'esclaves. Évidemment, plus les esclaves sont nombreux, plus les maîtres sont contents, mais c'est à des années-lumière de la civilisation chrétienne. Et je crois que nous allons avoir un affrontement assez grave dans les années qui viennent, dans la civilisation occidentale. Il va falloir qu'on choisisse entre la civilisation chrétienne et donc revenir à nos propres fondements, soit ou alors accepter la soumission à l'islam en continuant le laïcisme, mais dans ces cas-là on va aller dans le totalitarisme le plus abject, et je crois pas du tout que les occidentaux soient mûrs pour ça. Même les occidentaux non chrétiens, non pratiquants sont très réservés évidemment sur les affirmations liberticides de l'islam. Moi, ce qui me frappe beaucoup dans votre petit livre, c'est les implications politiques du choix religieux, en fait, de l'islam, du choix anti-trinitaire. Vous voyez ce que je veux dire, c'est en refusant la Trinité, donc en refusant la relation en Dieu, et donc en refusant la notion de personne aussi, les musulmans, les totalitaires de façon générale, et les musulmans en particulier, nous forcent à refuser toute relation humaine autre que des relations de domination.
Absolument. Chesterton fait dire, j'avais ce passage tout à l'heure sous les yeux, fait dire un de ses personnages dans l'Auberge volante, la loi est tout, la loi est Allah. Tout tient là, et le reste n'a plus d'existence, en fait, et n'a plus de possibilité. Et c'est pour ça qu'à un moment, je pose la question à la fin d'un de mes chapitres, me semble-t-il, en demandant si finalement l'islam n'est pas une sorte d'anti-humanisme. J'aime pas tellement le mot humanisme, mais
je peux comprendre.
Il a des acceptions assez différentes, et on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Mais en tous les cas, au sens où il empêche réellement la vie humaine de s'épanouir, d'exister dans son ordre propre, que ce soit la politique, l'économie, le tout sous... certes sous le regard des principes religieux, mais qui ne sont pas là pour enfermer et pour asservir, mais qui sont là pour ordonner toute la vie humaine vers la vraie finalité. Et je pense que à sa manière, finalement, l'islam est une sorte de négation de toute médiation, et est une négation de l'incarnation même, et son refus d'ailleurs de la Trinité le montre amplement. Mais encore une fois, là j'insiste, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'islam, qui me paraît un sujet tellement important que on ne doit pas en parler n'importe comment et que ce sont les vrais connaisseurs qui doivent pouvoir en parler. D'ailleurs, dans mon livre, dans ce livre qui est sur Chesterton, je donne la vision de Chesterton sur l'islam. C'est pas un livre de spécialistes sur l'islam. C'est le livre d'un écrivain qui, avec son regard de poète et de chrétien, a eu une vision et une intuition très forte sur un problème qui nous revient dans la figure, si je puis dire, si vous me passez l'expression, avec un effet de boomerang assez terrible et qui trouve une nouvelle résonance aujourd'hui.
Monsieur Labbé, vous voulez ajouter quelque chose?
Oui, je voudrais dire que le fait de refuser la Trinité, et donc la relation, comme vous disiez, amène l'islam à se rendre incapable de penser la différence. Et donc, en même temps, ça explique que toutes les sociétés musulmanes, à partir du moment où elles ont tombé sous la férule du pouvoir islamique, se sont stérilisées. Parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir le recul nécessaire à l'intelligence pour se distinguer de l'objet et penser. Donc, les Occidentaux dont vous parliez, qui ne sont pas mûrs pour devenir musulmans, qu'ils pensent à ça. Si les Occidentaux peut aujourd'hui se glorifier du progrès des sciences et des techniques, elle le doit précisément parce que au fondement de la pensée, il y a cette capacité de se distancer de l'objet. Ce qui dans l'islam est impossible, puisqu'Allah existe, eh bien il monopolise la totalité de l'être. Mmh. Donc en dehors de lui, il n'y a rien. Donc ça ne sert à rien de penser, quoi.
Peut-être qu'on pourrait, à ce propos, juste faire une petite remarque. On emploie souvent les trois religions du livre, les trois monothéismes.
C'est agaçant.
C'est extraordinairement agaçant. Et je me souviens d'un très bon petit essai d'Alain Besançon qui avait cogné très fort là-dessus. Mais il est clair que le christianisme n'est pas un monothéisme au sens de l'islam. Et d'ailleurs, non plus au sens du judaïsme talmudique. Qui par ailleurs est tout à fait sur la même ligne que l'islam de ce point de vue-là. Enfin, c'est un anti-trinitarisme là aussi forcené. Et alors évidemment, pour nous occidentaux, c'est un problème moins crucial pour le moment, puisqu'il n'y a pas d'immigration juive très importante en France. Mais de la même façon que le monothéisme judaïque post-christique et le monothéisme islamique sont des anti-trinitarismes, nous avons un monothéisme très différent. Enfin, nous avons un monothéisme trinitaire, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et nous ne sommes pas non plus une religion du livre. Moi, je continue à ne pas comprendre pourquoi on entend encore des prêtres et des évêques nous dire que nous partageons avec les autres religions du livre. Nous sommes une religion d'une personne et pas d'un livre.
Ni même, on n'est pas fondé à accepter de se retrouver catalogué parmi les enfants d'Abraham, avec les juifs et les musulmans. Parce que ça voudrait dire qu'on partage une même filiation, alors que c'est complètement erroné. La filiation qui nous ramène à Abraham, elle est selon la foi, elle n'est pas selon la chair, comme se glorifie le judaïsme et l'islam. Ce qui est d'ailleurs une contradiction de plus, parce que s'ils veulent se rattacher à Abraham par Ismaël, c'est-à-dire par une descendance charnelle comme le font les juifs, c'est en contradiction avec la visée universaliste qu'ils postulent par ailleurs.
Peut-être une petite question d'une auditrice c'est adressé aux spécialistes de Chesterton cette fois. Dans le Petit Larousse illustré, je découvre Chesterton, écrivain anglais né à Londres, romancier satirique et humoriste. Que pensez-vous de cette définition ?
Bien, comme toute définition des dictionnaires moins modernes, elle est à la fois juste et très incomplète. Elle décrit une partie du personnage. Mais ne rend pas hommage, à mon sens, à la richesse à la fois du personnage qui me semble extrêmement intéressant par lui-même, mais on peut pas demander ça à un dictionnaire, mais en tous les cas, ne rend pas hommage à la richesse de son œuvre, qui est beaucoup plus large et beaucoup plus forte que ce que dit ce dictionnaire.
Bien, je rappelle pour les auditeurs le titre du livre donc de Philippe Maxence, que vous venez d'entendre, Chesterton face à l'islam, aux éditions Via Romana. C'est un petit livre de 175 pages, 176 pages, et qui coûte 13 euros, donc c'est très peu cher et c'est assez passionnant.
Si je puis me permettre, juste Guillaume, pour donner à nos auditeurs une idée de ce livre, qui est effectivement un petit livre de poche, donc c'est absolument rien. Il est organisé à travers 5 chapitres qui présentent un peu sur des thématiques assez précises, après un rappel de qui est Chesterton, justement. Sa vision de l'islam, notamment sur le libre arbitre, la religion, la question du vin, celle des femmes, etc. Et il contient aussi, parce que j'aime ça, c'est un de mes travers dans les livres, un florilège de citations pris à travers son œuvre, qui permet d'avoir une
vision plus complète.
Une vision un peu plus, au moins complètement, mais un peu plus large de son apport sur le sujet.
Eh bien, merci.
Et je vous remercie beaucoup.
Oh ben c'est nous qui vous remercions, cher Philippe. Et nous passons tout de suite, et sans transition, à un autre sujet religieux. Nous sommes toujours dans le libre journal de chrétienté sur Radio Courtoisie. Et nous passons à un autre sujet religieux qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec la question islamique, puisque c'est un rapport immédiat avec l'incarnation et la rédemption, qui est le respect dû au Saint-Sacrement. Donc Jean-Pierre Mojande, qui est avec nous pour en parler, il s'agit d'un petit livre publié par Mgr Schneider, qui est évêque au Kazakhstan, si je ne m'abuse.
Tout à fait, il est évêque auxiliaire d'Astana au Kazakhstan.
D'accord.
Et on attend de voir ce qu'il va devenir, parce que l'évêque titulaire a remis sa démission.
D'accord. Et donc Mgr Schneider est assez réputé dans les milieux traditionnalistes ou traditionnalisants comme étant l'un des évêques qui a été le plus réceptif à la demande de Benoît XVI, à la fois sur la réforme de la réforme et sur la liberté pour la messe traditionnelle. Et là, il vient de publier donc un petit livre qui s'intitule Corpus Christi, donc j'ai pas besoin, je pense, de traduire, qui est donc sur la réception de la Sainte Communion. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu d'où vient ce livre, comment vous l'avez édité, vous ?
Alors, nous avons en fait repris la traduction d'un ouvrage qui est paru il y a un an maintenant à la librairie éditrice Vatican, donc aux éditions officielles du Saint-Siège. Cet ouvrage a d'abord été publié en italien. Bon. Et il y avait la nécessité, je ne sais pas s'il y avait la nécessité, mais en tout cas il y avait une demande, besoin, nous semblait-il, que cet ouvrage soit traduit en français. C'est donc ce que nous avons fait, donc un ouvrage qui a été publié à l'occasion de notre université d'été, donc au mois de juillet, il y a juste un mois, et que nous avons, je crois, utilement, non pas complété, mais dont nous espérons pouvoir augmenter le rayonnement, puisque le cardinal Burke, qui est préfet du tribunal suprême de la signature apostolique, a bien voulu honorer cet ouvrage d'une préface. Alors généralement, les préfaces, souvent, c'est 10 lignes pour dire « c'est très bien, cher ami » ou « éminence, excellence, quel mérite vous avez eu de traiter ce sujet ». Et là, je dois le dire, voilà, contre toute attente, le cardinal Burke a fait une préface de plus de 10 pages, qui est à la fois très personnel, très spirituel et je crois également extrêmement riche pour soutenir effectivement la diffusion de ce livre.
Et qui est très engagé sur la même ligne que Mgr Schneider, pour autant qu'il y a peut-être des subtilités mais qui m'ont échappé. Et en tout cas, et la préface et le texte m'ont semblé extrêmement fermes sur la défense de la forme traditionnelle de réception de la Sainte Communion. Alors, peut-être que vous pourriez expliquer aux auditeurs qui serait né récemment, quelle est la forme traditionnelle de réception de la Sainte Communion ?
Alors voilà, la forme traditionnelle de réception de la Sainte Communion, la Sainte Communion jusqu'à une époque récente se recevait à genoux et sur la langue. Bon. En fait, c'est la concrétisation, la manifestation, Mgr Schneider y insiste de manière très importante, de deux réalités, me semble-t-il, là je parle sous le contrôle de Monsieur l'abbé Pagès. La première réalité, c'est bien sûr la présence réelle, c'est-à-dire que pour un catholique, sous les apparences du pain et du vin, il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité du Christ. Sous les apparences du pain il y a tout, et sous les apparences du vin, il y a tout. C'est-à-dire que dans la liturgie latine, on ne communie que sous les apparences du pain, historiquement d'ailleurs pour des raisons de commodité, parce que le vin c'est quand même plus délicat, plus difficile, il y a des risques d'en renverser, etc. Mais voilà, il n'y a pas de frustration du fidèle qui ne communie que sous les apparences du pain. Le fait qu'il y ait le pain et le vin manifeste la réalité du sacrifice. Et c'est la deuxième réalité qui donne tout son sens à la présence réelle que l'on vient d'évoquer, c'est que la messe, d'abord et avant tout, c'est un sacrifice. C'est-à-dire, ça n'est pas comme on a pu le croire ou l'enseigner, l'entendre, même à des niveaux élevés de la hiérarchie, ça n'est pas un repas, ça n'est pas une synaxe sacrée, ça n'est pas le rassemblement du peuple de Dieu, non, c'est un sacrifice.
C'est le sacrifice.
Le renouvellement non sanglant du sacrifice du calvaire. Alors ce sacrifice, il sert à quoi? Je me permets de vous livrer un peu ce qu'en dit le catéchisme de Saint Pie X, qui à mon avis a vraiment cette formule de question-réponse est extrêmement pédagogique. Pour préparer cette émission, je suis allé regarder les trois documents que je consulte quand j'ai des questions un petit peu de catéchisme ou de théologie. Donc le catéchisme de Saint Pie X, le catéchisme du Concile de Trente et le catéchisme de l'Église catholique. Bon. Et mon choix s'est arrêté sur le catéchisme de Saint Pie X, parce que c'est là qu'en quelques lignes, c'est le plus clair, c'est le plus simple, c'est compréhensible par tout le monde avec des mots simples. Et que nous dit donc le catéchisme de Saint Pie X? Pour quelle fin offre-t-on le sacrifice de la Sainte Messe? On offre à Dieu le sacrifice de la Sainte Messe pour quatre fins. Pour lui rendre l'honneur qui lui est dû, et à ce point de vue, le sacrifice est latretique. Pour le remercier de ses bienfaits, et à ce point de vue, le sacrifice est eucharistique, c'est l'expression que l'on emploie aujourd'hui de la manière la plus courante. Pour l'apaiser, lui donner la satisfaction due pour nos péchés, soulager les âmes du purgatoire, et à ce point de vue, le sacrifice est propitiatoire. Et puis la quatrième finalité, pour obtenir toutes les grâces qui nous sont nécessaires, et à ce point de vue, le sacrifice est impétratoire. Voilà ce que c'est que la messe. C'est pas l'assemblée qui se réunit, je sais pas quoi, etc. Et ce sacrifice, il est offert par le prêtre. Et pour que ce sacrifice soit offert par le prêtre, il faut qu'il y ait une victime, et la victime, c'est le Christ. Et c'est pour ça qu'il y a la présence réelle sous les apparences du pain et du vin du Christ. Et on voit bien que quand un certain nombre d'esprits en viennent à occulter, à oublier, à estomper ce caractère sacrificiel, eh bien de manière naturelle, on en vient aussi à estomper, à oublier, à croire de moins en moins en la réalité de la présence réelle du Christ sous les apparences du pain et du vin. C'est-à-dire que les deux sont extrêmement liés. En niant l'un, peu ou prou, on arrive à nier l'autre. Bon, et je crois que c'est ce que nous avons vécu les 30 ou 40 années qui viennent de passer. C'est l'oubli de la présence réelle du Christ sous les apparences du pain et du vin. Alors, on l'observe tous, hein, cette diminution de la croyance en la présence réelle. Ben, tous les sondages le montrent. Quand on interroge les catholiques sur en quoi vous croyez, eh bien, aujourd'hui, doit y avoir 30 ou 40% dans les meilleurs cas, qui croient en la présence réelle du Christ sous les apparences du pain et du vin. Alors, cette croyance...
Parmi les pratiquants.
Parmi les pratiquants, bien sûr, vous avez raison. Donc ça, c'est...
Et encore, moi, c'est une expérience que j'ai faite à plusieurs reprises. Beaucoup de ceux qui disent croire à la présence réelle ne savent pas qu'ils y croient différemment des protestants. Et c'est quand même tout à fait... nous croyons à une présence substantielle qui dure. Un certain nombre, par exemple, les luthériens
croient
à la présence réelle.
Voilà, à la différence des luthériens. Ils croient à l'instant présent.
Exactement. Quand ils communient à la Sainte Cène pour eux, et ils croient à la présence réelle, mais c'est pas la même présence réelle que nous. La présence réelle des catholiques, c'est une présence réelle. Le pain et le vin n'existent plus en dehors de leurs apparences. Ils ont complètement disparu. La substance, c'est vraiment le corps et définitivement.
Alors, sans rentrer dans des polémiques, je sais pas, mais c'est des réalités. On sort quand même de 30 ou 40 années Ou c'est quand même le contraire qui a été véhiculé. Je me rappelle le fameux missel à fleurs, là, en 1973. Il était annoncé comme rappel de foi indispensable, comme commentaire de l'Épître aux Hébreux. Il s'agit de faire mémoire de l'unique sacrifice déjà accompli. Ça a été enseigné officiellement,
il diffusé. C'est uniquement de faire mémoire.
Oui, le livre officiel mis à disposition de tous les laïcs en France, avec toutes les signatures, l'imprimature, le nihil obstat, etc., des évêques de France. Et donc après, comme disait Bainville, on aura les conséquences. Et on a aujourd'hui les conséquences. Et ce qu'apporte, me semble-t-il, l'ouvrage de Mgr Schneider, c'est de revenir sur cette réalité. Il revient d'abord et avant tout sur la réalité de la présence réelle. Alors, c'est un sujet qu'il avait déjà traité dans un ouvrage qui était paru en 2008, qui s'appelait Dominus Est, qui avait bénéficié d'une préface du cardinal Rangit, qui était à l'époque secrétaire de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. Mais dans cet ouvrage, il faisait surtout une approche très doctrinale sur la tradition patristique, c'est la manière dont les pères de l'Église avaient promu, avaient vécu la communion à genoux, et puis également en faisant un long développement sur la constitution Memoriale Domini du 29 mai 1969, qui était en fait le document dans lequel, c'est tout le paradoxe de la situation dans laquelle nous nous trouvons, à la fois on disait que la communion dans la main était interdite, je cite ce texte, « Il n'a pas paru opportun au souverain pontife de changer la façon selon laquelle depuis longtemps est administrée la sainte communion aux fidèles ». Bon, donc on se dit, l'affaire est claire, tout est très bien. Le paragraphe précédent, d'ailleurs, confirmait encore cela, puisqu'on avait fait une enquête auprès des évêques, et il ressortait de cette enquête. En conséquence, à partir des réponses obtenues, il est évident qu'une forte majorité d'évêques estime que rien ne doit être changé à la discipline actuelle. Bon, donc on lit ça, on se dit très bien, l'affaire est pliée, il n'y aura pas de souci, tout va bien se passer. Eh bien, pas du tout, parce que dans le paragraphe suivant, mais au cas où ce serait déjà enraciné dans un endroit particulier l'usage contraire, c'est-à-dire celui de déposer la Sainte Communion dans la main, le Saint-Siège, afin d'aider les conférences épiscopales à accomplir leurs tâches pastorales, devenues souvent plus difficiles que jamais dans les circonstances actuelles, confie à ces mêmes conférences la charge et le devoir de peser avec soin les circonstances particulières qui pourraient exister. Voilà. C'est-à-dire que le pape rappelle la règle, il n'y a pas d'autorisation, mais après les conférences épiscopales feront ce qu'elles veulent. Et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que l'exception, l'indulte, c'est le terme qui est employé par Mgr Schneider, l'indulte est devenue la règle.
Alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie et que nous parlons avec Jean-Pierre Maugendre du livre Corpus Christi de Mgr Schneider. Oui, donc l'indulte est devenue la règle. Moi, ce qui m'a toujours un peu gêné, pour ne pas dire plus, dans la communion dans la main, c'est surtout la conception de la loi qu'il y avait derrière. On peut pas violer impunément le 2000 ans de doctrine juridique chrétienne. Une règle, c'est une règle. Qui est des indultes, très bien. Mais enfin, on peut pas dire que un indulte, c'est une règle. On peut pas dire qu'une tolérance, c'est un droit. Enfin, cette façon de tout mélanger et de se servir d'un document qui interdit expressément une pratique pour la justifier est quand même franchement problématique. Et depuis 40 ans, nous sommes sous le régime à la fois du caporalisme et du laxisme le plus militant.
Alors, il y a cet aspect juridique que vous évoquez, et puis j'appartiens au maléfice de l'âge, à une génération qui a ramassé des coups de pied dans les genoux, et puis des intonations du prêtre avec qui on devait recevoir la communion, tendez la main, etc. C'est-à-dire, il y a l'aspect juridique, et puis il y a aussi la réalité de ce qui s'est passé dans les paroisses.
Je remercie beaucoup Jean-Pierre Maugendre de diffuser l'enseignement de Mgr Schneider. C'est vraiment pour moi fondamental de traiter le Christ comme il doit l'être, c'est-à-dire avec toute l'adoration qui lui est due et tous les égards et les pompes qui signifient qu'il est Dieu. Mais je voudrais rappeler que je crois que c'est en 2000, 8, je ne sais plus très bien, la Congrégation pour le culte divin a publié un document qui s'appelle « Redemptionis Sacramentum », le sacrement de la rédemption, avec comme sous-titre « Ce qui doit être fait et évité concernant la célébration de la Sainte Liturgie ». Donc c'est un document magnifique, qui doit beaucoup plaire à Jean-Pierre, parce que justement c'est très didactique, les choses sont énoncées très clairement, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et au sujet de la distribution de la Sainte Communion, je crois que c'est le numéro 92-93 de mémoire, il est dit « Là où les conférences épiscopales le permettent, et avec l'accord du Saint-Siège, si on demande la communion dans la main, le prêtre peut la donner. » Il n'est pas marqué, il doit. Je trouve ça magnifique. Ça veut dire qu'en dernier ressort, même là où les conférences épiscopales le disent, on faut faire comme ça. Même si Saint-Siège donne son accord, en dernier ressort, il appartient au prêtre, de façon tout à fait personnelle, d'exercer sa responsabilité. Et personne ne peut lui ravir le droit d'exercer sa responsabilité. Car le Saint-Siège ne dit pas, on doit la donner dans la main, même si on la demande, même si tout le monde veut qu'on la donne. Le prêtre, il peut la donner seulement. Et donc je voudrais que les prêtres fassent attention à ce passage. Ils ne se croient pas obligés, parce que tout le monde fait comme ça, parce que les fidèles exigent ça, qu'ils ne se croient pas obligés de la donner. Ils sont responsables devant Dieu de ce choix qu'ils font.
On est dans la logique que j'évoquais tout à l'heure de l'indulte. C'est une possibilité qui est donnée, de donner la communion dans la main, mais en aucun cas, ça n'est une obligation.
Voilà. Et ça, aujourd'hui, malheureusement...
On est bien dans la logique d'un adulte.
Je vous assure que la plupart des prêtres, autant que je puisse en juger d'après mon expérience, se croient obligés de la donner dans la main. Ils croient que c'est un devoir pour eux, que les fidèles ont le droit d'exiger ça d'eux.
Alors, il y a un argument, enfin c'est à peu près le seul argument qu'on entend depuis 40 ans sur la communion dans la main, c'est avant la forme traditionnelle, il y avait la communion à l'époque antique, et donc on cite très souvent le passage de Saint-Cyril de Jérusalem où on dit « fais un trône de tes deux mains pour le roi des cieux », etc. Alors, et là-dessus, Mgr Schneider, qui doit être spécialiste de patristique, si j'ai bien compris, a une réponse très forte, moi, je trouve.
Voilà, alors il aborde le sujet en disant d'abord la communion dans la main, c'est pas la communion au sens où on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était pas du tout, je reçois, alors je suis pas très familier de ce type de procédure, mais je reçois dans la main, et puis avec l'autre main, je porte à ma bouche. Bon, là, on est tout à fait sur une logique qui est une logique, d'ailleurs, que dénoncent Mgr Schneider et le cardinal Burke dans la préface, qui est de dire « je me nourris ». Bon, et on retombe bien tout à l'heure sur les analogies que l'on évoquait avec le repas, etc. Bon, et ce que développe Mgr Schneider, c'est de dire effectivement, ça existait dans l'Église primitive, mais il y avait deux choses. Il y avait d'abord, en particulier pour les femmes, un linge blanc qui était mis sur les mains, etc., de manière à bien montrer que c'était quelque chose de particulier. Et puis d'après ce que j'ai compris aussi, on ne portait pas à la main, c'est-à-dire on venait avec la bouche, prendre effectivement donc, l'hostie. Et donc, par le fait même, dans la manifestation extérieure, ça n'était pas une nourriture banale. Voilà. Et c'est le premier élément, le premier argument qu'emploie le Mgr Schneider dans son développement en quatre parties. Et un des éléments sur lequel il insiste, il dit, ce geste de prendre dans la main et de porter à sa bouche, il dit, ça banalise l'absorption, et ça fait de la communion et de la Sainte Eucharistie une nourriture commune. Absolument. Et même, c'est ce qui était développé, même les rites qui se rapprochaient de ça au temps primitif, la manière dont ça se passait, on voyait bien que c'était pas une nourriture commune. Et donc il dit, c'est pas très honnête d'utiliser ça alors que c'était radicalement différent.
Et moi j'ai trouvé très intéressant dans son livre, il y a deux aspects dans la communion traditionnelle, y compris d'ailleurs sous la forme primitive de communion dans la main avec les guillemets, il y a deux aspects qui sont fondamentaux, c'est un, recevoir la Sainte Eucharistie comme un petit enfant, c'est-à-dire on ne se nourrit pas soi-même, on n'est pas des adultes, cette prétention avec des chrétiens adultes qu'on a entendu pendant 40 ans qui est insupportable, parce qu'évidemment on n'est jamais jamais adultes devant Dieu. On reçoit comme des petits-enfants. Et par ailleurs, on ne laisse aucune parcelle dans sa main. Donc soit on a un linge, soit on lèche directement dans sa main. Parce qu'il faut bien comprendre que si on croit vraiment à la présence réelle, on croit que toutes les miettes qui restent dans la main sont le Dieu vivant. Et donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec.
Voilà, alors je reprends là notre catéchisme de Saint Pie X. Hein. Quand on divise l'hostie, divise-t-on le corps de Jésus-Christ ? Quand on divise l'hostie, on ne divise pas le corps de Jésus-Christ, on divise seulement les espèces du pain. Dans quelle partie de l'hostie reste le corps de Jésus-Christ ? Le corps de Jésus-Christ reste tout entier dans toutes les parties en lesquelles l'hostie a été divisée. Dans une grande hostie, comme dans la parcelle d'une hostie, c'est toujours le même Jésus-Christ. Voilà. Et le Mgr Schneider et le cardinal Burke insistent beaucoup sur cet aspect. Ils disent « la communion dans la main ». Mgr Schneider le dit et le cardinal Burke insiste aussi en tant que pasteur. On multiplie les pertes de parcelles de
sang. Y compris des gens qui
ne portent pas de jugement. Il dit, mais c'est inévitable.
C'est très, très grave.
Deux commentaires de lecteurs qui vont dans ce sens. Une auditrice qui dit « Chez les protestants, il n'y a pas de transsubstantiation comme chez les catholiques, il y a consubstantiation. » En fait, ce n'est pas chez tous les protestants. Mais... Il y aurait sacrilège à délivrer la Sainte Communion aux protestants. Vatican II nous l'a fait croire. Et une autre auditrice, communion dans la main, lorsque l'on sait que dans la moindre petite miette, Jésus est là tout entier vivant, les fidèles risquent d'emporter la moindre parcelle. Que risque de devenir cette parcelle ? Évidemment, c'est le problème majeur de la communion dans la main.
Alors c'est un point d'ailleurs qu'évoque le cardinal Burke, c'est-à-dire dans sa préface, il fait une préface qui est, moi j'ai trouvé, très personnelle. Et il a observé deux choses. Il dit d'abord les gens qui emportent l'hostie chez eux, et il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce que ça va devenir, etc. Et il porte le témoignage, en tant que prêtre, en tant qu'évêque, eh bien, qu'il lui est arrivé de retrouver des hosties dans des livres de chants, sur des bancs, etc. Mais il dit, pour le Seigneur qui est là, qui est tout...
C'est dingue.
C'est fou.
Ah, c'est grave.
C'est fou, ça.
Et alors, Monsieur l'abbé Pajas, vous vouliez...
Oui, pour revenir sur la considération de l'histoire de la distribution de la communion, dans le premier ouvrage de Mgr Schneider, je me souviens qu'il donne un compte-rendu de la façon dont les luthériens et les calvinistes, au moment au début de leur mouvement, avaient affaire évidemment à des catholiques. Ceux qui ont suivi Calvin et Luther étaient catholiques, tout le monde était catholique en Europe à ce moment-là. Et donc, pour bien que leurs nouveaux fidèles ne croient pas, comme le reste des catholiques, que ce qu'ils étaient en train de consommer était Dieu lui-même, Jésus qui a dit « Je suis le pain vivant, descendu du ciel pour qu'on le mange et ne meure pas », Jean 6, 50, il a demandé justement à ce qu'on ne se mette pas à genoux et qu'on ne communie pas sur la langue, mais dans la main. Autrement dit, nous, aujourd'hui, on reprend le rite de ceux qui ne croient pas à la présence réelle.
Et dans Corpus Christi, il a une anecdote, je crois, alors je ne sais plus si c'est cardinal Burke ou Mgr Schneider, mais il y a une anecdote où des luthériens qui étaient restés fidèles à la forme traditionnelle de donner la Sainte Communion,
oui, c'est Schneider
en voyant que les catholiques ne recevaient plus la communion à genoux et sur la langue, on cessait de pratiquer. Pour eux, c'était pas, c'était la présence réelle du moment. Ce n'était pas la transsubstantiation. Et donc, nous avons même réussi à corrompre les luthériens sur la conception de la présence réelle, ce qui est quand même un peu paradoxal.
Tout à fait. Mgr Schneider développe ce thème. Et puis, il y a un dernier point, je crois que c'est M. l'abbé Pagès qui l'a développé tout à l'heure. Le cardinal Burke, dans sa préface, il répond aux objections avec beaucoup de charité sur les droits des fidèles qui préféreraient ceci, qui préféreraient cela, etc. Et il répond par un argument, moi, qui me semble déterminant et qu'on entend, me semble-t-il, pas assez. Il dit « c'est les droits du Christ ». Un aspect tout à fait impérieux de la présentation de Mgr Schneider regarde le droit du Christ, le « ius Christi ». En nous rappelant l'humilité totale de l'amour du Christ qui se donne à nous dans la petite hostie, fragile par nature, Mgr Schneider nous remet à l'esprit la grave obligation de protéger et d'adorer notre Seigneur. En effet, dans la Sainte Communion, il se fait en raison de son amour incessant et incommensurable pour l'homme, le plus petit, le plus faible, le plus délicat d'entre nous. Les yeux de la foi reconnaissent la présence réelle dans les parcelles même les plus petites de la Sainte Hostie et nous conduisent ainsi à l'adoration amoureuse. C'est un thème qui développe Mgr Schneider dans son livre. Il dit « On vit une situation paradoxale. Il n'est question que d'aider les pauvres, que de se porter vers les plus démunis, les plus faibles. Les plus... » Et il dit « Dans l'Église aujourd'hui, il n'y a pas plus pauvre, il n'y a pas plus faible, il n'y a pas plus démuni et au final, il n'y a pas plus abandonné. » que le Christ dans l'Eucharistie.
Et je crois que les profanations que l'on voit se multiplier dans nos églises, à mon avis, sont liées au fait que nous-mêmes, nous profanons le Seigneur dans nos églises. Si nous-mêmes ne respectons pas le Seigneur dans l'Église, je ne vois pas pourquoi les païens iraient faire autrement.
Alors, Mgr Schneider développe ça à un moment donné en prenant l'image d'un dialogue avec un musulman.
Oui, c'est voilà, très, très frappant.
C'est,
ouais.
Voilà, c'est un musulman qui s'y devait rentrer dans une église et tout, etc. Et voyant la manière dont on se comporte dans l'hostie et lui comparant
le respect
qui est porté au Coran. Nous, on sait bien que le Coran, c'est la parole de Dieu. Ça n'est pas Dieu, mais c'est la parole de Dieu. Là, on parle du Saint-Coran, on l'embrasse, il faut se laver les mains avant de le toucher, etc. Et vous voulez nous faire croire que vous croyez que votre Dieu, il est là, quand on voit la manière dont vous vous comportez avec lui. Non, c'est des carabistouilles, tout ça.
Une auditrice, vous en avez un peu parlé Jean-Pierre, mais une auditrice nous demande « Pouvez-vous aborder le sujet de la communion sous les deux espèces ?» qui a évidemment un rapport intime avec notre sujet. Alors, c'est pas forcément la question du respect, mais enfin, ça a fait partie des polémiques.
Voilà, la communion sous les deux espèces n'est pas de tradition dans l'Église latine. Elle l'est dans les Églises orientales pour des raisons qui sont des raisons pratiques. C'est-à-dire que le déplacer un calice, boire, c'est quand même très compliqué. Et puis, me semble-t-il dans mes souvenirs, le risque était aussi, en faisant communier sous les deux espèces, que les gens croient, parce que la loi de la prière, c'est la loi de la croyance, que les gens croient qu'il y avait le corps du Christ sous les apparences du pain, le sang du Christ sous les apparences du vin, et que s'ils n'avaient pas communié aux deux, finalement, ils n'avaient eu qu'une partie. Bon, et l'Église, dans sa sagesse, a dit, pour éviter que l'on croit ça, parce qu'il y a le corps, le sang, l'âme et la divinité, aussi bien sous les apparences du pain que sous les apparences du vin, les fidèles, sauf cas très particuliers, ne communieront que sous les apparences du pain.
Je crois que c'est essentiellement pour des raisons d'ordre pratique, parce que si les gens se sentaient frustrés de ne pas recevoir le sang parce qu'ils communient seulement aux espèces du pain, je ne vois pas pourquoi ils ne se sentiraient pas frustrés de ne pas recevoir l'âme et la divinité en communiant aux espèces du vin. Mais on peut faire remarquer que dans les églises d'Orient, ils reçoivent donc les deux espèces dans la bouche. C'est-à-dire qu'il y a une petite cuillère, voilà.
Indiction ou intiction ?
Intinction.
Voilà.
Mais le vrai problème, c'est de la même façon que dans la communion dans la main, on risque de laisser des miettes dans la main. Si le calice tourne un peu dans l'assemblée, il y a des chances que des gouttes du précieux sang tombent. Et c'est la même chose. C'est le Dieu vivant tout entier qui est profané. Donc, là aussi, il y a quelque chose de très pédagogique. Moi, ça m'est arrivé une fois de voir ça à Saint-Eugène, où une hostie était tombée malencontreusement. Ça avait tout de suite d'abord paralysé la distribution de la communion. Le prêtre était venu, avait fait un carré de sauvegarde pour sauver, entre guillemets, l'hostie qui était tombée. Et donc, on comprenait que ça n'était pas une miette de pain qui était tombée. C'était vraiment le Dieu vivant. Oui, monsieur l'abbé.
Je voudrais dire encore que dans ce document que j'ai signalé tout à l'heure, à savoir un Redemptionis Sacramentum, il est dit, je crois que c'est au numéro 62, on rétablira l'usage du plateau. Mais où est-ce que on voit ça ? Où est-ce qu'on voit ça dans nos églises ? Et d'ailleurs, quand la congrégation pour le culte divin demande à ce qu'on rétablisse l'usage du plateau, je vois pas comment après on irait communier dans la main.
Ah oui,
ça n'a pas beaucoup de sens.
Hein ? Donc
ça va devenir très compliqué.
C'est vraiment. Enfin, je veux dire, comment les prêtres, les évêques peuvent-ils demander aux fidèles de leur obéir quand eux-mêmes n'obéissent pas à qui doivent obéir ?
Bien sûr.
Donc la cause des problèmes, elle est là. Le Christ qui est le pain vivant descendu du ciel, qui est dans sa grande miséricorde, est là, comme disait Jean-Pierre, pour rendre présent son sacrifice qui nous sauve. On peut tout avoir dans la messe. C'est vraiment la source du salut. Tout est possible quand on participe consciemment et avec foi à la messe. Eh bien, au lieu d'en faire le cœur de notre vie, comme le catéchisme dit que la messe est la source et le sommet de la vie chrétienne. Eh ben non, ça devient une célébration livrée à l'arbitraire de tout le monde. Voilà.
Alors je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, que nous parlons en ce moment du livre édité par Renaissance catholique, Corpus Christi, de Mgr Schneider.
Alors je crois également on peut souligner, puisque Mgr Schneider, là, nous avons sous-titré son livre « Un Corpus Christi, la communion dans la main au cœur de la crise de l'Église ». C'est-à-dire que Mgr Schneider vient d'évoquer tout ce que nous venons de dire, mais il va même plus loin, je me permets de le citer. « La vraie crise de l'Église contemporaine est au fond une crise eucharistique, et plus concrètement, une crise causée de façon décisive par la communion dans la main ». Une crise prévue par Paul VI et confirmée aujourd'hui par les faits. Il est inutile de songer à une vraie réforme de l'Église et à une vraie nouvelle évangélisation si l'on ne soigne pas le mal à la racine. Or ce mal, c'est la crise eucharistique en général, et en particulier la crise provoquée par la communion dans la main.
Très bien.
On constate souvent du respect humain quant à cette question, comme si nul ne souhaitait mettre le doigt dans la plaie. Dans les discours et les programmes soutenant une nécessaire réforme de l'Église et une nouvelle évangélisation, on parle de façon générique ou théorique de la nécessité d'un plus grand respect et d'une meilleure attention envers le pain consacré. Mais tant que perdurera la véritable cause concrète de l'irrespect et de l'insouciance généralisée, c'est-à-dire la communion dans la main, ces discours n'auront pas d'effet sur la foi et sur la piété eucharistique qui sont le cœur battant de l'Église. Amen. Et très concrètement, moi j'avoue, quand j'ai lu ce texte pour la première fois, j'étais un peu saisi. Le choix de conserver une telle pratique, de maintenir l'indulte permettant la communion dans la main, se révèle toujours plus comme non pastoral, dans la mesure où cette pratique est préjudiciable à la foi, amen, et à la piété des fidèles, amen, ainsi qu'au droit du Seigneur Eucharistique. Amen.
C'est très, voilà, très important.
Qu'un évêque diocésain écrive ça, préfacé par le cardinal Burke. Ça doit faire bouger les lignes, ça doit aider à prendre conscience d'un certain. Et je crois en plus. Bon, bien sûr qu'il a raison, mais c'est fondamental. Oui. L'Église, elle repose sur le Christ. Oui. Elle repose sur l'adoration qui est rendue au Christ, sur le sens que nous avons de sa présence dans l'Eucharistie. Tout le reste, c'est de l'agitation.
Bien sûr, bien sûr.
Et puis pour nous-mêmes, pour savoir qui nous sommes le corps du Christ. Si on méprise le corps du Christ, comment est-ce qu'ensuite on peut se traiter de façon digne et responsable ? Nous devons nous aimer les uns les autres parce que nous sommes le Christ. On ne peut pas prétendre être chrétien et aimer le Christ si on n'aime pas celui qui est un membre du même corps que moi.
Et nous souhaitons que cet ouvrage soit un outil pour, l'expression fait un peu florer, la réforme de la réforme, c'est-à-dire faire porter, diffuser ça. Alors bien sûr, il y a un certain nombre de prêtres qui sont acquis à ça, un certain nombre de laïcs qui sont acquis à ça, mais nous avons conçu, et c'est pour ça que nous avons souhaité diffuser ce livre, pour qu'il soit un outil de conversion, un outil d'apostolat, un outil de l'Église enseignante. Nous trois ici présents, nous ne sommes pas l'Église enseignante, nous sommes l'Église enseignée. L'Église enseignante, ce sont les évêques et les cardinaux. La parole d'un évêque, la parole d'un cardinal de la Sainte Église, pour faire reprendre conscience de ces réalités qui ont été un peu estompées, je crois que c'est quelque chose d'important. Et je crois aussi que c'est quelque chose sur lequel chacun des auditeurs de Radio Courtoisie peut faire quelque chose. Ouais. En achetant un exemplaire, en le donnant à telle personne de son entourage, à tel prêtre. Alors on est en train d'essayer d'envoyer ce livre au maximum de prêtres et d'évêques en France. Je crois que oui, si on l'envoie, on va pas leur demander de payer. Donc effectivement, nous sommes aussi dans la recherche de moyens financiers de pouvoir mener cette opération que je crois importante, pour l'Église,
Amen.
J'ai trouvé en contrepoint en fait de notre situation où nous sommes dans une société assez nantie d'une part et très irrespectueuse du corps du Christ d'autre part. J'ai trouvé le petit premier chapitre de ce livre très, très émouvant. Monseigneur Schneider commence par raconter, donc manifestement c'est un Allemand de la Volga, hein, donc c'est ce peuplement allemand qui a tenu pendant des siècles jusqu'à la déportation par Staline, et donc qui raconte l'histoire d'un petit garçon donc d'une immense piété eucharistique dans une situation de dénuement absolument complet, et toute sa famille, qui avait l'air assez nombreuse, toute sa famille ne tenait que par la dévotion eucharistique, et toute cette civilisation chrétienne des Allemands de la Volga a manifestement tenu très longtemps grâce à la piété eucharistique, et donc pour nous ça devrait aussi faire réfléchir, c'est aussi des fruits de civilisation. Je salue l'arrivée dans le studio de deux porte-parole de l'association SOS Chrétiens d'Orient. Nous avons droit à deux pour une fois. Donc Anne-Marie Laborde, bonsoir Anne-Marie.
Bonsoir.
Et Mathilde Pellerin, bonsoir Mathilde.
Bonsoir.
J'espérais que nous aurions cette agréable surprise, puisque donc SOS Chrétiens d'Orient, que maintenant la plupart des auditeurs de Radio Courtoisie connaissent, SOS Chrétiens d'Orient a été en première ligne ces dernières semaines en Syrie et en Irak pour porter le soutien des chrétiens occidentaux aux chrétiens persécutés là-bas. Si vous nous permettez, on termine avec Jean-Pierre Mogende sur ce très beau petit ouvrage Corpus Christi. Corpus Christi, qui est un ouvrage de Monseigneur Schneider, qui est paru aux éditions Contretemps, donc des éditions de Renaissance catholique, et qui est disponible au prix de 13 euros.
Voilà, au prix modique de 13 euros, donc vous pouvez vous procurer.
Alors, procurez-le vous, et surtout offrez-le, c'est vraiment fondamental. Plus il y aura de prêtres qui l'auront lu, plus on pourra escompter une vraie nouvelle évangélisation. Pardon. Jean-Pierre Mogende, vous voulez peut-être dire un petit mot pour motiver.
Non. La seule chose, je crois que d'abord il faut lire cet ouvrage pour raviver notre piété eucharistique qui est au cœur de la foi. Et puis je crois que c'est aussi un outil d'évangélisation qui est à la portée de tout le monde sur les pratiques liturgiques aujourd'hui, sur les problèmes que pose la réforme liturgique. Il y a eu des ouvrages passionnants, mais parfois peut-être un peu complexes. Là, je crois qu'il y a un outil qui est à la portée de tout le monde, parce que la manière dont on reçoit l'Eucharistie, tout le monde peut l'observer, c'est quelque chose qui est facile à expliquer, nous en sommes tous témoins, je crois que c'est un outil d'évangélisation à la portée de tout le monde.
Peut-être deux questions. Alors, une remarque d'abord. Pourquoi ne rappelez-vous pas le miracle de Lanciano du 8e siècle ? L'hostie consacrée est devenue chair vivante et le vin sang réel. L'analyse scientifique de ces reliques en 1970 a constaté le fait. En 1973, l'OMS a nommé une commission scientifique pour vérifier ses conclusions. Le résumé des travaux publiés par l'OMS et l'ONU en 1976 a confirmé sans pouvoir expliquer. Donc effectivement, il y a beaucoup de miracles.
Oui, il y a une multitude de miracles eucharistiques.
Il a été plusieurs fois constaté que l'hostie était la chair d'un homme vivant. De fait, c'est pas du pain ordinaire, ça c'est clair. L'hostie consacrée, évidemment. Et une auditrice qui dit, peut-être monsieur l'abbé Pagès, vous allez pouvoir réagir, puisque vous n'êtes pas traditionnaliste, contrairement à Jean-Pierre Mogende. Je trouve déplacé cette discorde, entre les traditionalistes et ceux qui le sont beaucoup moins. Ce qui est important, c'est au Moyen-Orient, les chrétiens qui sont massacrés partout dans le monde. L'essentiel est de nous unir, de nous soutenir. N'insistons pas sur nos discordes. Monsieur l'abbé, voulez-vous...
Il n'y a pas de discorde, justement, parce que nous sommes d'accord avec Jean-Pierre sur la façon de communier. Donc, je n'ai pas eu le problème.
Mais alors, nous allons en venir tout de suite. Cette auditrice nous offre la transition. Donc, je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie dans le libre journal de Chrétienté. Je salue l'arrivée du vénéré président de cette radio dans le studio, donc Henri de Lesquin. Je me tourne vers les deux porte-parole des SOS Chrétiens d'Orient, Anne-Marie et Mathilde. Donc, votre association était présente et en Syrie et en Irak ces dernières semaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que vous avez fait comme œuvre là-bas? Anne-Marie, peut-être, pour commencer.
Alors, il y a eu d'abord une première mission en Irak.
D'accord.
C'était du 18 au 28 juillet. Nous y allions pour voir déjà sur place ce dont ils avaient besoin exactement. Et nous avions entrepris de construire un puits à Karakoche.
À Karakoche, qui est malheureusement tombé aux mains des islamistes peu après.
Exactement, donc c'est pour ça que deux bénévoles sont retournés d'urgence le 10 août à peu près, pour voir comment on pouvait les aider et revoir... pouvoir... sachant que le puits était annulé, pouvoir vraiment trouver une autre solution. Donc ils sont partis et pendant quelques jours, ils ont cherché à voir...
les autorités ecclésiastiques.
Les autorités ecclésiastiques, exactement. Les chrétiens qui s'entassaient un peu partout dans la ville.
Donc ils étaient plutôt au Kurdistan, c'est ça?
Exactement, à Erbil.
À Erbil, c'est ça, d'accord.
Et là, ils ont décidé de construire 3 cabines médicalisées. Parce qu'il y a des gros problèmes de santé, de la promiscuité, des...
D'accord. Et donc concrètement, il y a des camps de réfugiés. Comment ça se présente à Erbil en ce moment?
Oui, c'est ça. Alors,
c'est Mathilde, pardon.
Voilà. Pour le moment, donc, il y a 24 camps qui sont répertoriés. Donc, ils sont principalement dans les écoles et les paroisses. Les gens sont très nombreux dans ces camps. Il y a environ 5 familles par toit ou par tente, suivant les installations. Il y a aussi beaucoup de familles qui campent dans des immeubles en construction. On a vu quand on y était qu'il y en avait énormément dans tout le quartier d'Enkawa. Donc, qui est le quartier chrétien d'Erbil. Donc voilà pour l'endroit où ils sont pour le moment.
Et donc, concrètement, pour les aider, donc SOS Chrétien d'Orient va monter des cabines médicalisées. C'est quoi exactement une cabine médicalisée?
Alors, c'est un grand conteneur qui est réutilisé, climatisé. Il y a à peu près 3 salles, je crois. Une salle pour le médecin, pour les auscultations, et une autre pour l'accueil de 2 personnes avec des lits. Et la troisième, je ne me souviens plus exactement, mais c'est assez petit.
Donc en gros, c'est un hôpital de campagne.
Non, mais c'est vraiment petit, ça n'accueille pas beaucoup de monde, il en faudrait des quinzaines.
D'accord.
Mais c'est 10 000 euros par cabine.
D'accord, oui.
Pour l'instant, l'association s'engage à en fournir 3. Il y en a déjà une, on attend encore de pouvoir apporter les 2 autres.
D'accord. Donc ça, c'était la première mission Irak, donc première mission à Karakoche qui a malheureusement échoué puisque Karakoche est tombée. Et donc deuxième mission Erbil. Et vous avez eu aussi une mission en Syrie, si j'ai bien compris.
C'est ça, ils y sont encore
jusqu'à demain. Que...
Ouais. Donc à Maaloula, c'est ça?
Oui, alors c'est pour la reconstruction d'une église, de l'église Saint-Georges à Maaloula.
D'accord.
Donc ça prend quand même un peu de temps. Donc ils sont allés sur place, ils ont pu voir comment organiser la chose. Mais les travaux ne sont pas encore lancés. D'accord. Ils en ont profité quand même pour visiter de nombreux villages et voir quelle aide apporter vraiment au cas par cas.
D'accord. Alors, je rappelle peut-être pour les auditeurs que Maaloula, c'est cette Mecque des chrétiens, si j'ose dire, en Syrie. Donc une ville quasiment à 100% chrétienne qui a été prise par les islamistes il y a à peu près un an dans des conditions de barbarie absolument catastrophiques. Daniel Amiche, qui vient d'arriver dans le studio, tout de suite à protester.
Non, je suis juste de passage uniquement. C'est pour être sûr que quand vous aurez terminé votre émission, vous allez pouvoir éteindre la lumière. Parce que, comme il dit dans le film sur la pension Muche, vous savez, donc l'électricité n'est pas un fluide gratuit. Non, Maaloula, c'est un peu là, pour prendre un terme un peu araméen, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on a au Liban, c'est la Kadish, c'est-à-dire cette petite vallée sainte, parce que c'est là où s'accumule. Il y a, à Maaloula, il y a le plus vieil hôtel chrétien.
Qui a été profané, si j'ai bien vu.
Qui a été cassé. Qui a été cassé. Le plus vieil, c'est le plus. Enfin, d'un point de vue archéologique, il y en a peut-être un autre qui est beaucoup plus vieux qu'on trouvera un jour. C'est le plus vieux. Voilà. Ah, plus compliqué.
Qui était toujours en service.
Il s'en servait toujours. C'est un petit hôtel. Il y a un petit hôtel, c'est très intéressant, un peu en forme de fer à cheval, qui a été absolument. La pierre d'hôtel a été brisée en menus morceaux par notre religion de paix, de tolérance et d'amour. Religion d'amour, de tolérance et de paix, la RATP.
Voilà. Et c'est. Aussi l'endroit où on parle encore la langue du Christ.
Ah oui, c'est l'araméen, hein. toute la vallée parle l'araméen.
En Irak aussi, non?
Il y a encore des villages en Irak, et puis encore de la liturgie qui se pratique en araméen, comme d'ailleurs au Liban, un peu au Liban, donc en Syrie et en Irak.
Voilà. Pardon. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour aider SOS Chrétien d'Orient et à travers SOS Chrétien d'Orient, évidemment, nos frères chrétiens d'Orient? Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie, dans le libre journal de chrétienté, et que nous recevons deux porte-paroles de l'association SOS Chrétien.
Et que l'appel aux dons n'est pas, en principe, on ne fait pas l'appel aux dons pour d'autres associations
que Radio Courtoisie,
qui surtout en cette période d'été a besoin de sous, je le rappelle, mais qu'on peut toujours aller se renseigner sur les besoins des autres associations, sur leur blog respectif,
leur site,
dont on va se dépêcher de donner l'adresse.
Donc Anne-Marie ou Mathilde, est-ce que vous pourriez nous donner le site internet de SOS Chrétien d'Orient?
Oui, bien sûr. Alors, donc le site d'SOS Chrétien d'Orient, c'est www.soschrétiendorient.fr.
Tout attaché.
Tout attaché. Chrétien avec un S,
oui,
évidemment.
Tant qu'il y en a encore
tant
plusieurs.
Qu'il y en a, voilà. Ensuite, nous avons une page Facebook où vous pouvez retrouver les récits jour par jour de la mission, donc la mission pour qu'ils vivent, qui se passe en ce moment donc en Irak, avec des photos, et donc là, on peut voir justement les cabines médicalisées, oui, et le.
D'accord. Enfin, il y a déjà des cabines médicalisées qui sont arrivées,
oui,
là-bas.
Oui, il y en a une, en tout cas, d'SOS Chrétien d'Orient.
D'accord. Je crois qu'il y a une partie de la cabine qui est pour les soins, hein, les petits soins d'urgence,
oui,
et choses comme ça.
Oui.
Une consultation, un accueil, et puis un petit
exactement,
petite place pour les soins.
Oui, parce que du coup, comme les gens, enfin toutes les populations ont fui, il commence à y avoir des maladies dues à ce déplacement. Donc,
est-ce qu'on a une idée du nombre de chrétiens qui ont fui l'Irak quand le soi-disant califat a avancé?
200 000.
200 000
minimum, 200 000, oui, qui sont aujourd'hui réfugiés dans la région autonome du Kurdistan. D'autres sont encore répartis dans où ce qu'ils peuvent, évidemment. Il y a encore quelques villages chrétiens qui ont échappé aux assauts des islamistes, mais l'essentiel, tout le monde est parti autour d'Erbil, enfin voilà, c'est là où ça se trouve. Je veux dire, l'archevêché d'Erbil est absolument submergé par. Il essaye de faire face à cet afflux colossal de réfugiés. Les gens sont partis avec ce qu'ils avaient même certains en pyjama, parce qu'ils étaient en pleine nuit, ils ont fui, hein. Bon, c'est clair. Hein. Et il y a vraiment un effort international qui doit être fait, qui commence à être fait, mais je le trouve un peu faible. On attend toujours de l'Organisation des Nations Unies, qui a une antenne à Erbil d'ailleurs, qui est assaillie aussi de demandes. On attend un pont aérien. Maintenant on peut, vu que l'aviation américaine peut protéger les ponts aériens, ce qui paraît.
Je ne sais pas pourquoi je sens comme du mauvais esprit.
Non, ce n'est pas du mauvais esprit. Je veux dire que les frappes auxquelles ils ont procédé me semblent les bienvenues. Enfin, tous les Irakiens, enfin, tous les chrétiens sont les Yazidis, tout le monde était les chiites, tout le monde est très très content des frappes aériennes américaines. Elles ont été quand même extrêmement ciblées, elles ont fait peu de dégâts pour l'armée de l'État dit, enfin du dit État islamique. Je pense que c'est un signal que les Américains ont envoyé à l'État islamique de ne pas aller au-delà d'un certain point. Hein, je pense qu'il y a eu une négociation, en fin de compte, entre, c'est moi qui le dis, c'est une opinion personnelle qui n'engage que mon humble personne. Il y a eu une négociation entre les États-Unis et l'État islamique. Les États-Unis auraient été tout à fait prêts à reconnaître un État islamique, si évidemment ils ne s'étaient pas mis à égorger des Américains, ce qui fait quand même extrêmement, c'est pas très très bien vu là-bas par le peuple américain. Je ne confonds pas le gouvernement des États-Unis et le peuple américain qui est un bon peuple. Voilà, là, malheureusement, l'État islamique a dépassé la borne, la ligne rouge, ou la ligne jaune, ou ce que vous voulez, quoi.
Le problème des lignes, c'est qu'elles ne sont pas très visibles.
C'est vrai. Mais en empiétant sur l'espace géographique de la région autonome du Kurdistan, ce qui a provoqué les réactions qu'on sait.
Est-ce qu'on a pu chiffrer, enfin, grosso modo, je ne sais pas moi, le nombre de victimes
Chez les islamistes?
Non, pas chez les islamistes.
On ne sait pas. C'est très compliqué, parce qu'il n'y a plus de statistiques, il n'y a plus rien. Il enfin, bon, y a des familles qui ont été un petit peu dispersées. C'est un peu comme en France quand on a eu l'exode. Moi, quand ma famille a fait l'exode, bon, un frangin s'est retrouvé à Clermont-Ferrand, puis les autres se sont retrouvés à Brest. Enfin, c'était effrayant. Bon, c'est comme ça. Dans ce genre d'exode précipité, les familles sont un petit peu disloquées.
Et est-ce que c'est vrai qu'ils ont enterré vivant des enfants?
À mon avis, on n'a pas de confirmation de cela. Il n'y a pas de confirmation de cela. Je crois qu'il y a eu une confusion. Moi, j'ai posé la question aux Nations Unies, qui sont là-bas, qui sont à, je crois que leur siège est à Dubaï, mais enfin ils sont en Irak, donc c'est l'organisme qui défend les droits de l'homme, enfin les droits des personnes, etc. J'ai posé la question parce que j'ai trouvé l'information un peu sensationnelle que des centaines de jeunes et d'enfants avaient été enterrés vivants par les islamistes. Non, c'est pas vrai. Ce qui s'est passé, de chrétiens, on disait les chrétiens en plus, c'est faux. Hein. Ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'enfants yazidis, cette petite secte, enfin, religieuse. Bon, ils ont la religion qu'ils veulent, mais enfin, c'est quand même un truc bizarre. Mais enfin, c'est pas une raison pour qu'on les massacre, encore une fois. Vous savez, moi, je suis écuménique et dialoguant. Vous me connaissez, Guillaume,
oui. Et c'est effectivement, spontanément, la définition que j'aurais donnée.
Voilà, exactement. Écuménique et dialoguant. Donc, des petits-enfants, beaucoup d'enfants, quand les Yazidis ont fui, parce que là, ils ont été, il y a eu beaucoup, beaucoup de massacres de la part des islamistes, quand ils ont fui, puis qu'ils sont réfugiés dans le Djebel Sinjar, là, etc. Beaucoup de gosses, des petits-enfants, et de hier sont morts de soif. Ah, une goutte d'eau. Et il y en avait 40 ou 50 000 réfugiés dans le Djebel, c'est quand même beaucoup. Hein, bon. Et donc, ce qu'ils ont fait, ils ont essayé, parce que c'est quand même des gens qui ont un peu de respect pour les corps humains, et, contrairement aux gens de l'État islamique, ils ont enterré comme ils ont pu dans les rochers. Donc, ils ont fait mis des enfants morts en les couvrant de pierres. Il n'y avait pas de sable, hein, c'était des rochers. Bon. Et alors, comme on les a retrouvés après, on a pensé qu'ils avaient été enterrés vivants. Mais ça n'est pas confirmé par les Nations Unies, qui, à mon avis, ont raison. Et donc, c'est un de ces innombrables bobards qui circulent sur ce qui se passe dans la région. Et il y en a beaucoup, hein, beaucoup.
Revenons donc à vos missions SOS Chrétien d'Orient. La mission Irak, vous êtes rentré, enfin ils sont rentrés plus exactement. La mission Syrie, ils rentrent demain. Est-ce qu'il y a déjà des missions ultérieures prévues ou pas encore?
Alors en Irak, ils y sont encore.
Ils y sont encore, oui, d'accord, pardon.
Encore une semaine.
C'est ça, il y a une première mission en juillet.
Ah oui, d'accord, pardon.
On est tous rentrés fin juillet et il y en a deux qui sont repartis le 10 août. D'accord. Et donc, qui sont encore.
Et qui sont jusqu'à la fin août.
À peu près, oui.
D'accord.
Bah, je dois dire que je suis mais ébloui d'admiration devant le travail. Alors, il y a d'autres associations, évidemment, qui s'occupent des chrétiens d'Orient, mais vous, il y a ce côté jeune, péchu, comme on dirait, quoi, dévoué, il y a une niaque. L'aide à l'Église en détresse, c'est formidable. L'œuvre des chrétiens d'Orient, c'est très très bien. Mais enfin, ce sont des choses institutionnelles, si vous voulez. Là, c'est une espèce d'association qui.
Rafraîchissante.
Et moi, je la vois comme un des beaux fruits de tout le mouvement que nous avons eu depuis presque deux ans maintenant. C'est un de ces fruits. Voilà, pour moi, c'est comme ça que je vois ça. Je dis, voilà, c'est un fruit de ce mouvement. Voilà, j'ai trouvé ça très très beau. Et je trouve ces gosses qui partent, enfin, ces jeunes gens, enfin, qui partent là-bas. Quand même, regardez ce qui s'y passe quand même. Hein.
Certains enlèvent, on enlève. Mariés.
Oui, bien sûr. Enfin, pour moi, c'est compte tenu de mon âge canonique, je suis le plus vieux dans l'âge le moins élevé dans ce studio, donc je vous en prie. Et je vois tous ces jeunes partir à leurs frais et en prenant sur leur temps et avec un risque quand même. C'est un risque, quoi. On va dans un hôtel 5 étoiles de Rhodes, pouf, il y a une intoxication alimentaire pour des gens qui ont payé 12 000 ou 15 000 euros le séjour. Bon, et ben là-bas, c'est pas une intoxication alimentaire qu'on peut avoir. Non, mais c'est vrai, on peut se retrouver égorgé, éventré, explosé, etc. Moi, je suis vraiment en admiration. Je trouve que moi, vous deux, je vous félicite au nom de toute l'équipe. Ils savent très bien toute l'affection que j'ai pour eux et pour elles aussi. Que c'est, bon, quand je dis eux, j'embrasse aussi elles. mais je suis vraiment très, très, très ému de lire la page Facebook de
Parce que, amis auditeurs, il faut que vous sachiez que Daniel Amiche, contrairement à ce qu'un vain peuple pense, Daniel Amiche est sur Facebook.
On m'a mis sur Facebook. Moi, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, tout ça, mais enfin, je vais voir un petit peu s'il n'y a pas trop de choses qui sont contraires aux bonnes mœurs. Je m'en fous, mais c'est surtout aux lois de la République. Moi, la République, je la respecte, hein, vous savez. Hein, respect. Oh là là. Bon. Oh, je vous en prie, pourquoi tout le monde rit? C'est curieux. Dès que je dis ça, tout le monde se.
C'est vrai,
non, je suis sérieux.
C'est vexant.
Voilà, donc. Voilà, ceci dit, pour vous dire toute l'affection et l'admiration que j'ai pour votre c'est vraiment, ce que vous faites est beau. Voilà, c'est tout. Merci. Ce que je peux dire, c'est bien. C'est beaucoup. Si on en avait plus de jeunes qui se lançaient dans ce genre, il y en a quand même pas mal aussi, quand même, faut dire, mais qui se lançaient où? Parce que là, vraiment, c'est une urgence vitale. On parlait tout à l'heure, l'abbé Pagès me posait la question de savoir si c'était pas encore à Mahaloula, peut-être aussi en Irak, qu'on parlait à l'araméen. Aujourd'hui, la question se pose, est-ce qu'il va encore y avoir des locuteurs araméens sur la zone géographique où se parlent les différents, il y a deux, en gros deux araméens, l'occidental et l'oriental, est-ce qu'on va continuer à le parler là? Parce qu'il y a aussi des pressions de l'État islamique sur le Liban. Alors des gens ne comprennent pas que le cardinal Rai s'est dit tout récemment, il y a 24 heures, tout à fait disposé à aller négocier avec le Hezbollah libanais. Pour voir comment on peut empêcher les incursions. Eh ben, il a raison, le cardinal Rai. Évidemment, évidemment, c'est de la haute politique. c'est de la haute politique. Voilà. Vive le cardinal Reich. Vive le patriarche Sacco. Voilà quelqu'un qui a quelque chose entre les oreilles, je peux vous le dire.
Oui, et puis qui a du courage, en tout cas. Oui. Puis
courageux et intelligent.
Le patriarche de Mossoul, là.
Oui. Enfin, le patriarche de tout l'Irak.
Louis-Raphaël Ier Sacco, c'est le patriarche de, oui, tout, de tous les Élymes. C'est le patriarche de Babylone, des Chaldéens. Oui. Patriarche chaldéen de Babylone. Ou un truc du genre, bah, c'est quelque chose, c'est des vieux machins qui datent presque de Mathusalem, on peut dire. Bon, avec la succession apostolique, on doit y arriver. Mais cet homme est un homme. Alors, c'est un tout petit homme, il doit mesurer 1m65, peut-être, quand il se met sur les doigts de pied, quoi, comme ça, sur les doigts des pieds. Hein. C'est un homme qui a du sens politique. C'est du sens. Là, aujourd'hui, on peut dire, j'ai vu un texte de lui, là, tout récent, d'hier au soir, ou ce matin, je ne sais plus, en disant, il a deux thèses actuellement, c'est de dire oui à une zone autonome pour les chrétiens, en gros la plaine de Ninive, mais non à des milices chrétiennes. Et je crois qu'il a raison. Pour les deux cas de figure, j'ai beaucoup réfléchi à ce truc, ça m'a donné des mots de tête, ça. Alors s'il dit qu'il est maintenant favorable à une zone autonome pour les chrétiens, c'est parce qu'il a pris beaucoup de contacts internationaux, qu'il a fait beaucoup de visites, il a vu tout le monde, hein. Il est allé aux États-Unis, il est allé à Bruxelles, il a vu tout le monde. Et donc je pense qu'il a eu, sinon une des garanties, mais au moins des encouragements, que les chancelleries internationales et les organisations internationales ne verraient pas d'un mauvais œil. Bon. Et son idée à lui, c'est de dire que ça va être garanti par les Nations Unies. Comme d'ailleurs le pape l'a dit, pas un seul pays qui met des frappes. Tous les Nations Unies. Il a eu raison, le pape François, pour le coup, il a tout à fait raison sur ce coup-là. Bon. Et par contre, les milices chrétiennes, il est contre. Il est contre, il ne veut pas qu'on crée des milices, et ça, c'est un petit aparté vis-à-vis des Kurdes. Bon. Les Kurdes qui ont des ambitions au-delà de la partie irakienne du Kurdistan. Il ne veut pas ça. Il veut d'abord qu'il y ait une protection internationale et que l'État central de Bagdad fasse son boulot pour protéger les chrétiens. Et ensuite, une fois que ce sera mis en place, alors là, pourquoi pas une milice chrétienne ou des bataillons chrétiens qui seront dans le cadre de l'armée irakienne. En gros, il est pour une cantonisation.
Fédération.
Une fédération de cantons de l'Irak, sans oublier les chrétiens, parce que je présente, on les oubliait, les chrétiens. Hein. Il y avait le canton kurde, le canton chiite, le canton sunnite, et rien pour les chrétiens. Bon, et ben maintenant, ça y est, ça commence à percer. Et puis, c'est trop tard, là, non? Et puis voilà, bon, c'est pas grave, je m'arrête.
Mais on continuera tout à l'heure sur les chrétiens d'Orient, naturellement. Des auditeurs demandent comment on peut acheter le livre Corpus Christi et où le commander, Jean-Pierre?
Ben, on peut l'acheter normalement chez votre libraire. Sans ça, il est disponible sur notre site internet, hein, renaissancecatholique.org. Sans ça, vous le commandez.
Dans quelques bonnes librairies de Paris, quand même.
Oui, il y en a à Notre-Dame-de-France, il y en a à Duquesne. Les libraires, normalement, sont approvisionnés. Vous pouvez aller chez votre libraire ou nous le commander à nous.
Et le nom du site internet des SOS Chrétiens d'Orient ?
www.soschrétiensd'orient.fr.
Alors, chrétiens, hein. SOS Chrétiens d'Orient.fr.
Je rappelle que nous sommes sur Radio Courtoisie. Nous finissons la première partie de ce libre journal de chrétienté, donc qui était cette fois-ci sur l'islam largement en début de partie, et sur la communion dans la main et la crise de l'Église. Un livre de Mgr Athanasius Schneider, Corpus Christi aux éditions Contre-temps. Nous vous retrouvons dans 5 minutes pour la deuxième partie.